VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 6 novembre 2017, en direct de Washington, Idrissa Seloulia et Anne Albertson pour commencer les titres.
En République démocratique du Congo, publication par la CENI d'un calendrier pour les présidentielles, législatives et provinciales.
Au Mali, 11 soldats gouvernementaux prisonniers des djihadistes tués après un raid français.
Au Libéria, décision attendue de la Cour suprême sur la date du second tour de la présidentielle qui était prévue pour demain.
Au Zimbabwe, l'épouse du président Robert Mugabe se dit prête à succéder à son mari.
Ici aux États-Unis, un homme armé d'un fusil automatique a tué hier 26 personnes dans une église du Texas.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, les élections présidentielles, législatives et provinciales ont été fixées au dimanche 23 décembre 2018. C'est ce qui ressort du calendrier électoral publié hier par la Commission électorale nationale indépendante. Ce calendrier est loin de faire l'unanimité puisqu'il a été aussitôt rejeté par les principaux partis politiques de l'opposition. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
23 décembre 2018, c'est la date à laquelle les Congolais iront voter pour élire non seulement leur nouveau président de la République, mais également renouveler l'Assemblée nationale et les assemblées provinciales. La Commission électorale nationale indépendante a donc mis fin au suspense en publiant le tant attendu et réclamé calendrier électoral ainsi que les principales dates jusqu'au scrutin. On sait par exemple que c'est le 23 juin prochain que doit être convoqué l'électorat et qu'après son élection, le nouveau président de la République prêtera serment le 12 janvier 2019. Toutefois, en publiant le calendrier électoral, le président de la CENI a également évoqué une série des contraintes qui concourent à la réussite de ce calendrier. Corneille Nangaa a par ailleurs appelé toutes les parties concernées à s'impliquer pour pouvoir tenir le délai. En réaction à ce calendrier, l'UDPS parle de distraction. Le parti d'Étienne Tshisekedi maintient la position exprimée par Félix Tshisekedi la semaine dernière d'une transition sans Kabila en cas de non-élection au 31 décembre 2017. Calendrier électoral rejeté également par Eve Bazaïba, la secrétaire générale du mouvement de libération du Congo, ainsi que par Moïse Katumbi, qui parle d'un calendrier fantaisiste. La majorité présidentielle, par contre, prend acte de ce calendrier et appelle l'ensemble de la classe politique à s'impliquer pour qu'il soit appliqué. Henri Movasakani, le secrétaire général du PPRD, parti présidentiel, parle de ce calendrier comme un bond en avant. Enfin, Joseph Olingankoy, le président du CENSA, Commission nationale de suivi de l'accord, parle d'un calendrier, je cite, consensuel et réaliste, fin de citation. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Pendant ce temps, dans l'est de la RDC, deux personnes ont été tuées hier à Bukavu dans des échanges de tirs. Ces violences opposaient les forces de sécurité aux gardes d'Abbas Kayonga, fonctionnaire du service antifraude minière déchu la semaine dernière par les autorités. Précision de notre correspondant Ernest Mouhero.
Bukavu s'est réveillé ce dimanche dans une totale psychose. Impossible pour les fidèles de se rendre à l'église tellement l'atmosphère est déchirée par les crépitements des balles. Par crainte, certains enfants et épouses des militaires quittent le camp Sayo pour tenter de vivre parmi les civils. Selon des sources militaires, les éléments armés fidèles à Abbas Kayonga, ex-coordonnateur de la cellule technique de lutte contre la fraude minière démis de ses fonctions le 2 novembre dernier, opposent une résistance à l'armée venue les désarmer. S'en est suivi une véritable bataille rangée. La calmie va intervenir vers 13h heure locale, lorsque Abbas va se rendre avec 16 de ses éléments à la MONUSCO, qui par la suite va les remettre aux mains des autorités politiques et judiciaires de la province du Sud-Kivu. Pour le moment, difficile d'établir un bilan définitif, mais selon le gouverneur du Sud-Kivu, Claude Nyamugabo, 3 personnes ont été tuées, dont 2 militaires loyalistes et un insurgé. Il parle également de 8 blessés côté FARDC et plusieurs côtés insurgés. Mais d'autres sources proches de l'armée et de la société civile évoquent la possibilité d'au moins 7 morts, dont 4 militaires loyalistes, 3 assaillants et des civils touchés par des balles perdues. Après les affrontements, c'est un véritable arsenal de guerre qui a été récupéré au domicile d'Abbas Kayonga. Entre autres, 5 lance-roquettes, des fusils mitrailleuses, 3 armes légères et beaucoup de munitions. Pour l'instant, l'interpellé et ses compères sont déjà entre les mains de la justice militaire congolaise. Ernest Mouhero, Bukavu, VOA Afrique.
Au Mali, 11 militaires, prisonniers d'un groupe djihadiste, ont été tués fin octobre dans la région de Kidal après un raid antiterroriste de l'armée française. Le point avec Jean-Roger Bion.
Nous avons assez d'éléments pour le dire. Début octobre, nous avons reçu des preuves de vie de nos militaires capturés par les terroristes. Dans la nuit du 23 au 24 octobre, après un raid antiterroriste, nos militaires ont été tués. Nous avons échangé avec les Français sur le sujet, a déclaré dimanche à l'AFP un responsable du ministère malien de la Défense. Des photographies des corps des soldats maliens tués ont permis de confirmer leur identité. Les soldats maliens tués étaient détenus par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, organisation djihadiste née de la fusion de plusieurs groupes du Sahel et dirigée par le Touareg malien Yad Aghali. Après cet incident, l'état-major des armées françaises avait indiqué qu'un groupe armé terroriste affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, a été mis hors de combat et 15 djihadistes tués par l'armée française dans le nord du Mali. Quelques 4000 militaires français sont déployés dans la bande sahélo-saharienne, une zone vaste comme l'Europe, dans le cadre de l'opération Barkhane.
Les Libériens attendent avec inquiétude aujourd'hui une décision de la Cour suprême sur la date du second tour de l'élection présidentielle après des plaintes pour fraude au premier tour, plaintes qui ont rendu le scrutin incertain et plongé le pays dans la division. La Cour doit décider ce matin de la tenue de ce second tour initialement prévu pour demain en programmant une nouvelle date ou en prolongeant le processus électoral jusqu'à l'examen final de la plainte déposée par les opposants du Parti de la Liberté de Charles Bromskin. Il était arrivé troisième lors du premier tour le 10 octobre derrière l'ex-footballeur George Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai.
Au Zimbabwe, l'épouse du président Robert Mugabe se dit prête à succéder à son mari, déclaration qui intervient alors que le parti au pouvoir, la ZANU-PF, connaît de profondes divisions à propos de la succession du président Mugabe qui a refusé de désigner un successeur. « Je dis à Monsieur Mugabe, vous devriez me laisser prendre votre place », a lancé Grace Mugabe devant des milliers de personnes dans un stade de Harare. « N'ayez pas peur, si vous voulez me donner votre poste, donnez-le-moi librement », a ajouté la première dame.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, 26 personnes ont été abattues et au moins 20 autres blessées en plein service religieux hier matin dans une église de Sutherland Springs, une petite localité près de San Antonio au Texas. L'auteur serait, pense-t-on, un ex-militaire renvoyé de l'armée de l'air après être passé devant une cour martiale. L'âge des victimes de ce nouveau massacre en Amérique commis avec un fusil d'assaut va de 5 à 72 ans. Le tireur est mort et on n'a aucune idée du mobile de son crime. Tout ce que l'on sait est qu'il s'agit d'un jeune homme blanc âgé d'une vingtaine d'années, tout de noir vêtu et portant un gilet pare-balles et armé d'un fusil d'assaut. Les enquêteurs du FBI et du bureau fédéral chargé des armes à feu sont sur place. Le président Donald Trump a qualifié la fusillade d'acte diabolique et appelé à des prières pour les victimes.
Monsieur Trump, qui effectue une tournée dans 5 pays d'Asie visant à accentuer la pression sur la Corée du Nord pour un arrêt des programmes nucléaires de Pyongyang, a averti hier que personne, aucun dictateur, aucun régime et aucune nation ne devrait jamais sous-estimer la détermination de l'Amérique. Donald Trump s'adressait à des militaires américains sur la base aérienne de Yokota au Japon. Le président américain n'exclut pas cependant de rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un pour le convaincre de renoncer à ses ambitions nucléaires, même s'il a jugé un tel scénario prématuré. De nouveau, Jean-Roger Bion.
Interrogé dans l'émission Full Measure, Donald Trump s'est dit prêt à rencontrer tout le monde, mais attendons de voir la tournure que ça prend. Je pense que c'est bien trop tôt pour envisager une rencontre au sommet avec Kim Jong-un, a-t-il ajouté. Le président américain avait déjà dit en main qu'il serait honoré de rencontrer le dirigeant nord-coréen si les conditions étaient réunies. Mais cette hypothèse n'avait pas été réitérée depuis et le ton s'est envenimé entre les deux hommes, notamment après de nouveaux essais nucléaires et de missiles balistiques nord-coréens. Donald Trump a promis le feu et la colère au régime nord-coréen et a même menacé devant l'ONU de détruire totalement la Corée du Nord en cas d'attaque. Il a affublé Kim Jong-un du sobriquet « Rocketman ». ou homme-fusée, et le dirigeant nord-coréen l'a qualifié en retour de gâteux américain mentalement dérangé. De son côté, la Corée du Nord a encore exclu ces derniers jours toute négociation.
Le secrétaire américain au commerce, Wilbur Ross, partage d'importants liens d'affaires en Russie à travers une société de transport maritime, Navigator Holdings, avec le gendre du président Vladimir Poutine et un oligarque visé par des sanctions américaines. C'est ce que révèle l'analyse d'une nouvelle fuite de documents liés aux paradis fiscaux. Il s'agit d'une des principales révélations des Paradise Papers, nouvelle enquête du consortium international des journalistes d'investigation. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Blanche Sanou.
La Guinée, la Mauritanie, le Sénégal et les Seychelles s'engagent en faveur d'une pêche responsable en s'associant à l'initiative pour la transparence des pêches. Pour les quatre pays qui disposent d'un important potentiel en ressources halieutiques, cette adhésion devrait stimuler les investissements grâce à la vulgarisation des informations sur le secteur de la pêche. Les progrès au Cameroun ont été salués par la Banque africaine de développement selon un rapport publié par cette institution financière. Cette croissance a été enregistrée dans les services sociaux et les infrastructures, classant le pays comme une économie solide de l'Afrique centrale. Le Nigeria demande 200 millions de dollars à la BAT pour l'amélioration de la fourniture électrique dans le nord-est du pays. Selon Ousmane Mohamed, directeur exécutif de la Transmission Company of Nigeria, ce financement se justifie suite à la détérioration de la fourniture énergétique de la région. En Côte d'Ivoire, les grandes entreprises vont créer un fonds de garantie pour les petites et moyennes entreprises afin d'assurer leur viabilité, a indiqué Jean Kakou Diagou, président directeur général du groupe ivoirien de Banque Assurance. De nouvelles réformes seront mises en place sur la fiscalité, les marchés publics et bien d'autres. Les besoins de financement des PME ivoiriennes sont estimés à 3574 milliards de francs CFA et M. Diagou lance une invitation à un partenariat entre l'État et le secteur privé pour accélérer le développement.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Al Ahly, mauvais perdant après la défaite en finale de la Ligue des Champions.
Et oui, l'entraîneur d'Al Ahly, Ossam Ed Badri, et ses dirigeants annoncent leur intention de saisir la Confédération africaine de football sur l'arbitrage jugé partial du Gambien Bakary Gassama. Le Gambien est l'objet d'accusations de partialité de l'entraîneur de l'équipe égyptienne. Un pénalty évident nous a été refusé et le but de Wydad était hors-jeu, a tonné Ossam Ed Badri. Quant au président Al-Wali Mahmoud Taher, il indique qu'il y aura un certain nombre de recours déposés, notamment la durée du temps additionnel, jugée insuffisante après que la partie ait été interrompue une bonne minute durant par des fumigènes.
Bonne nouvelle pour Sadio Mané.
Touché aux adducteurs face au Cap-Vert début octobre, le Sénégalais a fait son retour à la compétition plus rapidement que prévu. Jürgen Klopp, son entraîneur, a choisi de l'aligner samedi contre West Ham. À l'arrivée, Sadio Mané a joué 77 minutes et donné deux passes décisives pour Liverpool, qui l'a emporté 4 buts à 1. Sadio Mané qui est convoqué par Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Teranga, pour la double confrontation Afrique du Sud-Sénégal les 10 et 14 novembre prochains. On rappelle qu'une victoire des Sénégalais le 10 novembre leur assurait la qualification pour le Mondial 2018.
En Angleterre, Manchester City s'envole.
Une victoire 3-1 face à Arsenal des Citizens, qui compte désormais 8 points d'avance sur le rival Manchester United, battu 1-0 contre Chelsea, ou Marnias, le Sénégalais, est lui buteur contre Watford pour le match nul d'Everton de but partout.
Marathon de New York, une Américaine à l'honneur.
Et oui, Shalane Flanagan a mis fin dimanche au règne de la Kenyane Mary Keitany sur le Marathon de New York en remportant l'édition 2017. Le temps de Flanagan, 36 ans, 2h26 minutes et 53 secondes, soit une minute de mieux que Mary Keitany, qui avait remporté les éditions 2014, 2015 et 2016. Flanagan, vice-championne olympique 2008 du 10 000 mètres, est la première américaine à s'imposer à New York, tenez-vous bien Idrissa, depuis 1977. Chez les hommes, c'est Geoffrey Kamoror, pas le plus attendu des Kenyans, qui s'est imposé dans les allées de Central Park à 24 ans. Ce double champion du monde du cross long a remporté sa première victoire sur un marathon en 2h10 minutes et 53 secondes et il a devancé son compatriote Wilson Kipsang. Troisième, l'Éthiopien Lelisa Desiza, en 2h11 minutes et 32 secondes.
NBA, championnat de basket américain.
Nouvelle chute pour les Cleveland Cavaliers qui ont concédé une cinquième défaite en 6 rencontres à domicile face à Atlanta, 115 à 117. Dans le même temps, Miami s'est imposé sur le parquet des Clippers, 104 à 101.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, les partis politiques se préparent pour les élections régionales du 17 décembre prochain. Dans les états-majors des formations politiques, l'heure est à la composition des listes de candidatures et des alliances. Précision de notre correspondant Kassim Traoré.
La fièvre électorale pour les régionales a gagné les directions des différents partis politiques. Aucune formation ne veut aller en compétition sans faire une alliance, d'où les multiples rencontres entre les militants et les responsables des partis politiques. Alousseni Di Abamaïga, quatrième vice-président du parti phare, est la tête de liste d'une alliance à Bamako.
J'ai eu la chance et le privilège d'avoir été désigné comme tête de liste d'un certain nombre de partis politiques de l'opposition, Farhan Kaouli, dont je suis le quatrième vice-président, PDS, le Parena, le SADI, l'AFP, le Parti Lumière pour l'Afrique et une centaine d'associations qui, pour la plupart, font partie du collectif des associations de la plateforme Anté-Abana. Ça a été pour moi un privilège, un honneur, mais aussi une pression parce que lorsque la jeunesse vous fait confiance, vous désigne comme tête de liste, vous convenez avec moi que c'est une pression énorme. Mais cette pression, je l'assume avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de responsabilité.
À Bamako, la bataille des régionales sera discutée entre les partis politiques de la majorité présidentielle et ceux de l'opposition. Un duel ADEMA-RPM n'est pas à exclure pour le contrôle de la capitale. Assetou Sangaré Robicho de la liste RPM-PSDA.
Cette fois, il y a une particularité dans cette élection. Ce n'est pas une commune. C'est défendre votre liste à l'échelle de 6 communes du district de Bamako. C'est une première au Mali. Tu parles de la capitale d'un pays. Tu parles de la stabilité politique du pays en question même. Il faut préparer les armes, les stratégies et des possibilités qui font que Bamako restera stable. Je crois fortement à notre liste et je sais que notre liste a toutes les chances de passer.
Comme il s'agit des élections régionales, ADP Maliba est en compétition dans 37 cercles sur les 49 que compte le pays. Dans beaucoup de localités, le parti est en alliance. Cheikh Oumar Diallo, secrétaire politique de ADP Maliba.
Bien évidemment, on souhaite que les élections soient un moyen de normaliser la situation. On est quasiment sûr que dans beaucoup de localités, ça ne se fera pas dans les meilleures conditions. Mais malgré tout, les partis politiques ont décidé de présenter des listes partout où ils l'ont pu. Aujourd'hui, nous espérons que, à travers ces élections-là, l'opposition malienne pourra donner le signal de la fin de cette majorité actuelle qui a déçu les populations.
Si à Bamako et dans d'autres localités du pays, les régionales peuvent se tenir, force est de reconnaître que l'insécurité plane sur les régions du nord et du centre du Mali.
Les uns et les autres déplorent la situation, même au sein de la majorité présidentielle, où tout récemment, le président de la Haute Cour de justice, qui est une institution de la République, s'est fait attaquer, a été obligé de se réfugier dans la forêt et d'être sauvé par les militaires parce que le territoire n'est pas sûr. Mais comme nous devons aller aux élections, nous allons y aller avec beaucoup de confiance, avec l'assurance que nous allons gagner parce qu'il ne faut pas non plus boycotter des élections dont les présidents de conseils de cercle, les présidents de région auront des pouvoirs qu'aujourd'hui personne ne connaît mais dont nous savons l'importance à l'avenir.
En plus de l'insécurité, il y a aussi d'importants aspects techniques à régler, surtout l'inscription de nouveaux majeurs sur les listes électorales. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Bénin, grève dans le secteur de la santé, une grève qui dure depuis 2 mois. Les hôpitaux publics ne sont ouverts que les lundis et vendredis avec la mise sur pied d'un service hyper minimum. Au cœur de ce débrayage, les réformes engagées dans le secteur par le gouvernement du président Patrice Talon et qui seraient, selon les travailleurs, une véritable atteinte à leurs droits. De Cotonou, notre correspondante Ginette Fleur Adandé.
Les urgences, la pédiatrie, la maternité et autres services affiliés en Bénin 3 jours sur 5 dans les hôpitaux publics au Bénin. C'est le constat qui se fait depuis 2 mois sans qu'un accord soit trouvé pour mettre un terme au mouvement de grève scrupuleusement observé par les praticiens. Yves Fifadji est le secrétaire général du CETRASECH, le plus grand syndicat des praticiens hospitaliers. Pour lui, le gouvernement Talon ne fait pas les choses dans les règles de l'art.
Nous sommes vraiment mécontents parce que depuis le 6 avril que le président Talon est arrivé. On dirait que le secteur de la santé n'est pas une priorité. Rien n'a bougé dans le secteur. C'est au statu quo jusqu'à ce jour. Quel péché les travailleurs de santé ont commis?
Dans le plus grand hôpital de Porto Novo, la capitale, c'est une banderole qui annonce les couleurs de l'effectivité de la grève. Monsieur Norbert est venu au service d'urologie pour une urgence. Il n'a eu le choix que de rebrousser chemin. Il déplore la situation et invite le gouvernement à ne pas sacrifier le bien-être des populations.
Je suis arrivé là, j'ai vu que c'était la désolation totale. J'ai vu des malades qui traînaient sur les bancs là sans le minimum de soins. Donc je voudrais demander à la clémence des autorités politiques de ce pays de vite écouter les amis hospitaliers.
Au CNHU de Cotonou, le constat est le même. Une femme a même accouché par terre sans aucun secours, la maternité étant aussi en grève. Approchée, l'administration déplore la situation mais signale que la grève n'est pas autant suivie.
Les gens travaillent normalement dans les services, sauf quelques-uns qui n'ont pas encore compris certainement le bien fondé donc des réformes qui seront mises en œuvre dans le secteur de la santé.
Faux, retoque un agent de santé venu assurer le service minimum.
La grève est bien suivie. Moi, par exemple, malgré que je suis en bleu, je suis venu faire service minimum, une garde de 24 heures. Mais les amis avec qui je travaille ne sont pas arrivés.
À l'hôpital de la mère et de l'enfant, toujours à Cotonou, même constat, Thomas Dakin assure avoir pris les dispositions pour que la grève n'ait pas trop de conséquences fâcheuses.
Nous avons reçu la motion et des dispositions ont été mises en place pour quand même garantir la continuité du service. La grève n'empêchera pas l'hôpital de fonctionner.
Et pendant que les usagers des hôpitaux publics espèrent la fin du calvaire, les syndicalistes sont montés au créneau dimanche matin pour dénoncer une tentative de déstabilisation du mouvement par le gouvernement tendant à faire croire que la grève qui secoue le secteur de la santé se conjugue déjà au passé. Le porte-parole du collectif est joint au téléphone.
À ma grande surprise, je viens et j'entends qu'il y a une déclaration qui a été faite. J'étais tellement furieux quand j'ai entendu ça. J'ai dit que c'est un marché de Dieu. C'est un souhait qu'on reprenne, mais je voudrais dire que c'est une manière de communiquer que nous n'avons pas apprécié. En clair, nous ne sommes pas entendus sur le point. Et la grève continue.
Actuellement, le député Louis Vlavounou se bat pour le vote d'une loi qui arrache le droit de grève sans service minimum dans les hôpitaux. Un vrai service minimum qui prend en compte tous les patients venus avec une certaine urgence. De Cotonou, Ginette Le Adandé pour VOA Afrique.
Santé toujours, et au Niger, 14 établissements privés de santé ont été fermés sur décision du gouvernement. Cette sanction a été prise à la suite d'une inspection diligentée par le ministère de la Santé qui veut s'assurer de la qualité des soins offerts aux populations. Reportage de notre correspondant à Niamey, Abdourazak Idrissa.
C'est une décision qui est saluée presque unanimement au sein de l'opinion. Depuis longtemps, les pratiques dans les structures privées de santé sont décriées par la population de façon générale, mais surtout par les structures organisées. Amina Hashimou, présidente du réseau des journalistes sur les questions de santé, et Lawali Adamou, défenseur des droits humains.
On a fait des articles par rapport à la mort d'un enfant, un étudiant. On a fait des articles par rapport à certaines arnaques qu'ils sont en train de faire. L'argent qu'ils prennent, ils ne soignent pas, ils font des fausses ordonnances. Et par rapport même à la complicité de ces cliniques-là avec les formations sanitaires de l'État. Quand tu viens, tu veux avoir une prestation, un examen, une consultation, on te trouve mal dans telle clinique. Et finalement, ils ont tuer les services publics.
Vous allez voir aujourd'hui les centres de santé qui vont se permettre dans les villages, même dans les communes, de faire la césarienne, les opérations, de faire même le laboratoire. Un centre de santé n'a pas les moyens pour faire le laboratoire, pour faire les études de laboratoire, des analyses. Nous, en tant que défenseurs des droits humains, en tant que défenseurs des consommateurs, nous sommes dans l'obligation de vraiment supporter et d'encourager ce ministre parce que c'est la vie des personnes qui est en danger.
Au niveau du syndicat des pharmaciens du Niger également, l'on est loin d'un esprit corporatiste après cette décision des autorités. Docteur Aliou Mega est le président du syndicat.
En réalité, c'est des pharmacies qui ont été inspectées pendant 3 fois et l'inspecteur n'a jamais trouvé le pharmacien. Bon, le pharmacien doit être disponible pour exercer son art. Là, nous sommes tout à fait d'accord avec le ministère. On est d'accord qu'ils sont en faute. Mais il faut que la loi aussi soit appliquée dans toute sa rigueur envers ceux qui vendent les médicaments qui n'ont pas le droit.
Cette mesure de fermeture des établissements privés de santé a concerné un mélange de cabinets de soins, de cliniques, de laboratoires et d'officines. Docteur Idi Ilyasou Maynassara, ministre de la Santé publique.
Un produit qui est censé être vendu à 1 000 francs
et qui a été commandé à la même source, tu vas le trouver 1000 francs de X pharmacie, 2000 francs de X pharmacie, 1800 de X pharmacie, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas sérieux. Ou un acte chirurgical qui va être fait dans une clinique à 200 000 francs, tu vas le retrouver dans une autre clinique à 600 000 francs, à 400 000 francs. Nous avons donné un délai. Et parce que les textes disent, après une inspection, on peut donner un délai de 3 mois. Toutes ces structures aujourd'hui qu'on vient de fermer avaient eu déjà le délai. On leur a notifié et ceux qui ont, en tout cas, eu à corriger, aujourd'hui, ils sont là. Ceux qui n'ont pas, pensant que bon, c'est de la blague, là, on a pris des mesures pour fermer ces établissements.
Après cette mesure, le ministère en charge de la Santé compte bientôt s'attaquer à un autre phénomène dans le secteur. C'est la concentration dans la capitale des établissements privés de santé. Le Niger compte plus de 350 établissements privés de santé, dont plus de la moitié est installée dans la capitale. Le ministre de la Santé publique compte changer cela, puisque, estime-t-il, les autres populations ont aussi droit à un accès aux soins de santé. Abdullah Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Au Tchad, le secrétaire général des magistrats devait comparaître la semaine dernière devant le Conseil supérieur de la magistrature pour avoir déclaré en 2016 que l'état de droit était en vacances au Tchad. Pendant ce temps, les magistrats entament la deuxième semaine de leur grève sèche pour exiger, entre autres, le renouvellement du bureau du dit conseil arrivé à terme il y a plus de 2 ans. Le point avec André Kotmadjingar.
L'atmosphère est tendue ce vendredi devant la Cour suprême de N'Djamena. Les magistrats qui ont accompagné leur collègue Djonga Arafi ont été bloqués à l'entrée principale de la Cour suprême par les forces de l'ordre en faction. Sauf ses avocats ont eu accès dans la salle d'audience. Après 1h30 d'horloge, ils ressortent de la salle d'audience en faisant un V en signe de victoire. Maître Alain Kagombe, l'un des avocats.
Le dossier mis en délibéré sur la question préjudicielle. Nous avons soulevé l'incompétence du conseil qui est arrivé à terme de son mandat, voilà, il y a déjà 2 ans. Et le dossier mis en délibéré au 3 janvier 2018.
Pour Alarakete Sanengar, président du syndicat des magistrats du Tchad, le bureau illégitime du Conseil supérieur de la magistrature a trouvé une esquive.
L'honnêteté intellectuelle aurait voulu qu'ils disent oui, nous sommes incompétents, donc nous ne sommes pas le bon. Mais là aussi, c'est un premier pas, mais on n'en est pas encore fait. Notre grève était déjà décidée pour 2 semaines. Donc nous finissons nos 2 semaines de grève.
Le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, Maître Midaï Guéribaï, estime que la situation que traverse la justice tchadienne aujourd'hui est sciemment entretenue.
Comment vous allez comprendre qu'au bout d'une année, l'État n'est pas à même de payer les frais consécutifs à la tenue d'une réunion permettant de procéder au renouvellement du Conseil supérieur de la magistrature. À ma connaissance, c'est qu'il y a une volonté réelle de pouvoir retarder une justice sereine, indépendante et libre. Parce que si la justice est libre, tous les voleurs, tous les racistes qui défient l'État publiquement vont se retrouver aux maisons d'arrêt.
Cependant, le ministre de la Justice, Ahmad Mahamat Hassan, invite les magistrats à lever la grève. Car, affirme-t-il, les 193 millions de francs CFA pouvant servir au pays des primes de rendement et à l'organisation des élections pour renouveler le bureau du Conseil supérieur de la magistrature sont déjà disponibles.
Les fonds ont été déjà débloqués par le Trésor public dans le compte du ministère de la Justice. Et nous voudrions déclencher le paiement, mais malheureusement, les magistrats ayant été entrés en grève, nous ne pouvons pas déclencher la paie. Je voudrais lancer un appel à tous les magistrats de la République du Tchad. C'est des hommes de loi. Vraiment, je leur demande de reprendre le travail, parce que la justice, c'est comme la santé, ça concerne la vie des gens. Donc, j'aurais aimé que cet appel soit entendu.
Reste à savoir si cet appel sera entendu par les magistrats qui sont déterminés à poursuivre la grève sèche jusqu'à la fin de la semaine. André Kodmadjingar N'Djamena pour VO Afrique.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Dial Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Siroudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.